Bonjour, Copocas.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi. Lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode 11, je laisse la parole à la pétillante Fanny, maman de deux merveilleux enfants de 3 ans et 4 mois. J'ai la chance de la côtoyer puisqu'elle fait partie des membres fondatrices de l'association nivernaise des Trois Petites Graines. Elle accompagne les familles dans leur parentalité en tant que monitrice de portage. Fanny vient nous livrer son histoire, la résilience dont son couple a su témoigner dans les épreuves, la joie de changer de vie en devenant maman, le chamboulement de la fausse couche et l'inattendu d'un confinement et de ces mesures si particulières pour donner naissance. Je vous souhaite une très belle écoute. Enchantée, bienvenue Fanny, je suis hyper contente de pouvoir faire ça en vrai avec notre petite tasse de thé, tout c'est trop cool.
Moi aussi, je suis super contente de te recevoir, de conter mon histoire récente, donc j'espère que ça va aller. Je vais pas être trop émue, parce que c'est encore tout frais pour moi. Et puis voilà.
Et du coup, je crois qu'il y a un petit garçon qui va pouvoir écouter en même temps.
Il y a un petit garçon qui va pouvoir tout écouter et tout raconter aussi, hein, parce qu'on en a vécu des aventures ensemble déjà. Voilà. Donc je me présente, je suis Fanny, maman de deux merveilleux enfants, de Nina qui a presque 3 ans et demi et de Raphaël qui a 4 mois. Je suis aussi une petite graine et monitrice de portage.
Ça fait plein de choses. On en a un beau réseau dans la Nièvre quand même.
Oui, ça y est, on commence à avoir un réseau qui est super cool dans la Nièvre. C'est génial. Je suis assez fière.
Alors, où est-ce que commence cette histoire ?
Alors, l'histoire, elle commence il y a une belle dizaine d'années, quand j'étais étudiante infirmière à Vichy. En fait, j'ai rencontré Vincent il y a un peu moins de 10 ans. Et quand on s'est rencontrés, on était deux personnes perdues, tristes. On a deux histoires qui sont pas faciles tous les deux, et en 2010 on a vécu tous les deux des tsunamis dans nos vies. Donc Vincent, il a perdu sa maman, et moi j'étais avec quelqu'un qui s'est tué dans un accident de voiture. Et je pense que c'est là que tout a commencé, parce que quand on s'est rencontrés, on était vraiment, vraiment triste, vraiment perdu. Moi, j'ai traversé des périodes à Vichy qui sont difficiles, qui m'ont remuée, qui ont fait de moi la fille que je suis aujourd'hui. Donc j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de fierté, parce que sincèrement, je suis passée par des phases où aujourd'hui, je me dis, mais waouh, j'espère que je pourrai protéger mes enfants de ça. Et puis Vincent est... On s'est rencontrés sur le trottoir d'un bar un jeudi soir. Et c'est pas très très glorieux pour moi, parce que j'ai bien profité de ma vie étudiante.
Les jeudis soirs sont
voilà, réputés. Les jeudis soirs sur le trottoir du Gaulois, pour ceux qui connaissent un peu Vichy, c'était quand même une institution. Eh, c'est pas drôle. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça, et même si ça a été assez rapidement une évidence, ça a été... un peu long pour nous de trouver nos marques et de se dire, ça y est, on y va, on essaye de faire une belle histoire de tout ça. Et donc c'est en 2013 que moi je suis arrivée à un point de non-retour et où je me suis dit, soit je continue à faire n'importe quoi de ma vie étudiante, de ma vie professionnelle aussi, hein, de ma future vie professionnelle, soit je donne une chance à cet amour-là. Et donc j'ai quitté Vichy, mes études. Voilà, mes parents, je pense qu'ils s'en sont jamais remis. Et je suis venue m'installer à Nevers. Donc voilà, donc, bon, j'avais quand même validé ma première année d'infirmière, donc j'étais aide-soignante. Puis naturellement, j'ai repris mes études, je suis devenue infirmière. Et puis après, on a acheté une maison, voilà, le schéma un peu classique, quoi, la maison, le chien. Et puis après, on s'est dit, bah voilà, si on essayait d'être parents, comment... voilà, j'avais des petits soucis de contraception. On se dit, tiens, on enlève l'implant et on verra comment ça se passe. Et puis ça s'est bien passé parce que je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais bon, après un implant, on n'a pas forcément de cycle tout de suite. C'était un peu le bazar. Enfin, bon, j'ai pas récupéré de cycle. Et puis un jour, j'ai fait un test. Et puis, ah, tiens, oh, je suis presque enceinte de 3 mois. Il était temps de s'en rendre compte. Et puis voilà, Nina a été installée. C'était le début d'une nouvelle aventure avec encore des parents qui étaient encore un petit peu amochés aussi par la vie. Moi, j'avais perdu mon papa. Pendant la grossesse, au début de la grossesse, Vincent a perdu son grand frère dans un accident de moto. Et franchement, c'est ce que je... Enfin, ouais, nous, je me dis, des fois, on nous aura pas épargné grand-chose parce que ça a été des moments extrêmement difficiles à gérer. Et voilà. Donc, ça a été le début de la grossesse de Nina, ça. C'était quand même pas évident. Et puis, la grossesse s'est très bien passée. J'étais... pas très à l'aise, mais je crois que la grossesse n'est juste pas faite pour moi. mais ça s'est bien passé. Et puis, y a eu ces 2 derniers mois où j'ai quand même pris pas loin de 15 kilos en 2 mois. Donc on s'est dit, ah, tiens, il y a peut-être un petit souci. Alors un gros ventre cette madame quand même. Et puis effectivement, j'avais un hydramnios. Alors là, ça a commencé à un peu partir en cacahuète. Parce que l'infirmière que je suis n'est pas forcément très à l'aise à l'hôpital en tant que patiente. Et j'ai été hospitalisée, on m'a cherché des trucs. De toute façon, je me suis dit, à force de chercher, ils vont trouver un truc. Je ne savais même pas ce qu'ils cherchaient. Enfin, c'était juste dingue. Donc voilà, un gros bébé, beaucoup de liquide, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une infection, est-ce qu'il y a machin. Il s'est trouvé que tous les tests étaient négatifs et qu'au bout d'un moment, je leur ai dit, bon, écoutez... tout va bien, laissez-moi un peu tranquille, on verra, quoi. Donc après, il y avait une grosse interrogation, c'est que comme j'avais pas repris de cycle, on connaissait pas trop ma date de terme. C'était un peu frustrant quand on a pris 30 kilos et qu'on n'en peut plus de la vie de femme enceinte, parce que à la fin, je n'en pouvais plus. Et puis en fait, ma sage-femme m'avait dit que ça serait un petit bébé de la Saint-Valentin. Et puis le 13 février, quand j'avais un énième rendez-vous, il m'a dit non, ça sera plus le 21, votre terme. Ah, d'accord.
Chaque jour compte, dans ces moments-là.
Donc là, je me suis dit, donc cette dernière semaine qui s'annonçait longue va se transformer en une autre semaine. Ok, donc là, moralement, ça commençait à me peser un peu. Puis on a cette espèce de pression sociale où tout le monde veut savoir si on a accouché. Donc il faut quand même se dire que... on prévient quand on accouche en général, hein. C'est pas la peine d'appeler les mamans tous les jours. Moi, j'ai fini par éteindre mon téléphone, je n'en pouvais plus en fait. C'était difficile pour moi, c'était très stressant parce que comme il m'avait cherché plein de trucs, je me suis dit de toute façon, elle va sortir, il va y avoir un truc. Enfin, je veux dire, j'étais pas bien, c'était mon premier accouchement aussi, hein, donc voilà. Mmh. Et puis en plus, j'avais fait un stage en maternité, donc j'avais vu des femmes accoucher et voilà, je savais pas à quoi m'attendre en termes de moi, de ressenti, parce que je savais que pour tout le monde c'était différent, mais j'avais vu comment c'était et ça me faisait pas spécialement envie en fait. Et puis, arrivé le 21 février, donc les visites à la maternité de terme. Ah non, il n'y a rien, on vous décolle. Terme plus 2, il n'y a rien, on vous redécolle. Vous aurez rendez-vous à terme plus 4 pour un déclenchement. Donc, quand même à savoir que terme plus 4 du deuxième terme, donc là, ça commence à être long pour moi. Donc, on est rentré à l'hôpital un samedi soir pour se faire déclencher. Alors, c'était rigolo parce qu'on était tous les deux un samedi soir, de gros fêtards, un samedi soir sur le parking de l'hôpital avec un gros bide en se disant « Bon, bah ici, là, maintenant, notre vie va changer, quoi. » Quand même recontextualiser aussi cette super accouchement, c'est que Vincent est un grand sportif et s'est cassé la cheville 10 jours avant que j'accouche. Donc voilà, je me conduisais moi-même à l'hôpital pour aller accoucher, mais ça avait un côté super, super rigolo et c'est, voilà, on en rigole beaucoup maintenant. Et puis voilà, donc on est rentré le samedi, puis moi j'ai été persuadée que le dimanche ça serait fini, quoi. Je me déclenche, j'accouche, voilà. Puis là, la nana, elle me dit... on va vous mettre un propès, donc c'est un espèce de petit tampon plein d'hormones qu'on met sur le col. Et puis s'il marche pas, dans 24 heures, on vous en remet un. Dans 24 heures, je n'aurai peut-être pas accouché. Ok, bon. Et en fait, c'était un truc tout bête, c'est que comme j'avais trop d'eau, sa tête, elle appuyait pas. Et Nina, elle se retournait, elle était en siège, elle était en... sur le côté, elle nous a tout fait. Et en fait, bon, voilà, j'avais un bassin qui... Le radiologue avait dit qu'il en passait deux de front, donc...
Ah oui, d'accord.
Très sympa. Ok, donc je m'étais dit, bon, un siège, ça passera. Enfin, voilà, personne ne m'avait trop inquiété là-dessus. Moi, je le faisais confiance. Donc, elle m'a posé le premier propès, qui n'a pas fonctionné. Voilà. Et le dimanche soir, elle m'en a posé un deuxième. Et en fait, donc c'était la nana de nuit. Et elle est un peu... J'espère qu'elle ne m'écoutera pas. C'était une sage-femme un peu psychorigide, quoi. Et moi qui suis soignante, on en a toutes. Hein, dans les... Une qui suit bien le protocole. Mais bon, pour poser un propès, il y a peut-être un intérêt. Parce qu'effectivement, elle a été beaucoup plus... elle l'a posé au spéculum, bien loin et tout. Alors que l'autre l'avait posé au bout des doigts, bon... Et il a été effectivement plus efficace assez rapidement, donc voilà. Donc il faut quand même aussi se dire que quand c'est comme ça, on est hospitalisé à Nevers, c'est formidable, en maternité, hein, donc on n'a pas son bébé, on est quand même déjà dans sa chambre. Et c'est la nuit, et il y a ses enfants qui pleurent, et puis en même temps il y a ce silence, et il y a ces putains de contractions qui commencent à arriver. Et on est toute seule, parce que bon, moi, Vincent, je savais pas quand c'est que ça allait arriver, on habite à côté de l'hôpital, il est rentré dormir, quoi, enfin... Puis bon, au bout d'un moment, je me suis dit... peut-être l'appeler quand même parce que voilà, c'est difficile et que j'ai pas envie d'être toute seule, j'ai besoin de lui pour ne serait-ce que pour me donner l'oreiller pour crier, quoi. Et puis voilà, et puis ça se met en place, je commence à être vraiment mal, à vomir, machin, tout. Voilà, je me dis bon, c'est maintenant, ça va être bon et tout. Et puis vers 4h, il arrive, je lui dis écoute, on tient jusqu'à 5 et puis je lui demande de revenir pour voilà, pour voir ce qu'il en est, tout ça. À 5, je l'appelle. Non, mais vous n'étiez pas du tout dilaté tout à l'heure. Prenez le temps, tout ça. Ok. En fait, moi, j'avais qu'une peur, c'était de ne pas avoir la péridurale parce qu'on m'avait parlé d'un gros bébé, on m'avait parlé de césarienne parce que j'approchais du terme, parce que bon, quand même, ça commençait à être un peu compliqué. Et donc, moi, je voulais juste la péridurale pour ne pas avoir d'anesthésie générale parce que je sais aussi qu'à Nevers, les papas, ils ne sont pas dans le bloc. Donc voilà, donc moi j'étais là, punaise, ça va mal se finir, quoi, la péri, enfin bon. Et puis à 5h30, 6h, elle finit par venir m'examiner, et elle me dit « Oh là là, dis donc, vous êtes passée à dilatation complète, non, sans blague ?» Ok, et là je lui dis « Bah là, par contre, non, il me faut la péridurale. » Et en fait, c'était pas la douleur, j'avais mal. Mais vraiment, je ne voulais pas, j'étais pas préparée, je voulais pas, je voyais cette césarienne arriver, je me suis dit, putain, non, ne nous faites pas ça, quoi, pas comme ça. Et bon, la chance ou pas que j'ai, c'est que je connais les anesthésistes et tout, puis alors j'avais sélectionné mon casting, hein, en étant, j'avais regardé les gardes, je m'étais dit, lui, il est bon, lui, je veux que ce soit lui qui me pose la péridurale. Et donc, il me l'a posé, Tant bien que mal, parce que j'étais à dilatation complète, je commençais à vouloir pousser. Il m'a posé un truc, il m'a dit, écoute, au moins tu vas dormir, parce qu'effectivement, ça faisait 48 heures que j'avais pas dormi. Hein. On est à l'hôpital excité, avec des petites contractions, des petits trucs, voilà. Et puis là, je me suis reposée. Effectivement, j'avais plus mal, j'étais détendue, j'ai dormi pendant une heure, le temps qu'elle descende. Et puis voilà, et puis surtout le temps que le roulement se fasse, parce que j'accrochais pas trop avec cette sage-femme quand même. Mmh. Un peu trop protocolaire, un peu trop je vous ai pas écouté. Et je sentais pas, et j'avais dit à Vincent, écoute, je la sens pas, d'ailleurs j'ai été très désagréable avec elle, elle voulait me poser un cathéter, elle pinaillait parce que moi j'ai. Enfin voilà, on était. Il n'y avait pas de feeling, je voulais pas que ce soit. Donc j'ai attendu la relève, et puis j'ai appelé quand la relève est arrivée, et je leur ai dit, bon, par contre, les filles,
c'est le moment.
On va y aller, là, parce que la péridurale, elle fait pas effet. Elle m'a shootée au début, et puis après, c'était pire, et je sentais que d'un côté, et des fois de l'autre côté, et tout, et là, je me suis dit, là, ça va partir en cacahuète, ça va être la guerre, donc on y va, et puis on pousse, et on y va, quoi. Et j'ai poussé pendant 40 minutes, donc on a eu le droit au gynéco qui est arrivé, m'a montré les spatules, j'ai dit, écoute mon gars, j'ai pas fait tout ça pour t'en sortir les spatules. Et Nina est née, c'était génial parce que on avait un bébé à terme dépassé, avec manucure, cheveux peignés, toute rose, toute ronde... qui était sublime, qui t'était, enfin voilà, un bébé sans complications, rien, enfin je veux dire, c'était royal, qui prenait le sein d'une manière efficace et impressionnante, moi qui n'étais absolument pas préparée, parce que je savais que je voulais allaiter, mais voilà, je me suis dit, bah, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis, ça a marché, du feu de Dieu, c'était génial. Oui, ça va. Ça va, mon lapin. Toi aussi, ça a marché. Ça a marché, c'était formidable, même si, bah voilà, elles ont complété au début. J'ai réussi à, sans problème aucun, à gérer ça. Et puis, on est rentré à la maison. Et puis c'était vraiment génial. Nina est une petite fille solaire qui nous a bouleversés dans nos vies d'adultes, vraiment. J'ai changé plein de choses dans ma vie après sa naissance. Tout a été bousculé. Elle a été allaitée pas assez longtemps parce que j'ai repris le boulot trop tôt, parce que voilà, c'était pas idéal. Elle a été portée, oh là, oui, beaucoup d'ailleurs. Elle a fait naître la monitrice de portage que je suis maintenant. Et c'était un bébé formidable qu'on a traîné partout. Puis là, elle est à la fenêtre en train de sourire. Elle me fait remarquer. Je trouve qu'elle illustre bien ce que je suis en train de dire.
C'est marrant qu'elle ait une assemblée.
Ouais, c'est génial.
J'adore.
Avec son sourire, sa joie de vivre, qui nous a fait... pas oublié, mais qui nous a aidé à passer nos moments difficiles, et puis voilà, c'est vrai que ça a été c'était énorme, quoi. Nina, ça a été génial, et puis elle est restée cette petite fille formidable, et puis après on s'est dit, on ferait bien numéro 2. J'avais pas peiné à tomber enceinte pour la première fois, donc bon, on savait. En fait, on était dans notre zone de confort avec Nina, donc on n'avait pas trop envie de la laisser non plus, cette zone de confort. Ça se passait bien, tout ça. Et puis, je me souviens, j'ai rendez-vous chez ma sage-femme le 11 mars pour enlever mon stérilet qui était un petit peu dérangeant, pas très bien placé, donc qui me faisait beaucoup saigner, tout ça. Donc voilà, c'était l'occasion. Puis j'avais dit à Vincent, écoute, au pire, on met une capote, et puis si on n'a pas envie, on n'en met pas, puis on verra ce qui se passe. Si bien que le 19 avril, c'est le jour de mon anniversaire, j'étais avec des copines et tout, et puis je dis, je crois bien que je suis enceinte. Et Vincent me dit, non mais attends, c'est pas possible, il y a un moment donné, c'est bon. Et puis si, j'étais bien enceinte du tout début, hein. Donc on calcule un peu avec un début de grossesse le 1er avril, donc c'est un détail important pour la suite. Et puis voilà, et puis moi je dis à Vincent, essaye de pas trop en parler. Enfin voilà, j'avais pas envie de l'annoncer, alors que pour Nina on l'avait annoncé tôt. Parce que moi je me suis toujours dit que si se passait quelque chose, je voulais être entourée aussi. Et effectivement, on en a parlé, et puis moi j'en ai parlé à des copines en disant je me sens pas enceinte. Je suis allée voir mon frère et on mangeait, et c'est vrai que je crois que j'ai mangé du saucisson, enfin tout con, mais je ne me sentais pas enceinte. Et est arrivée l'écho de datation, et c'est une copine qui nous l'a faite en plus, une copine sage-femme, et là elle me dit écoute, soit tu t'es trompée dans la date de début, soit c'est peut-être pas très évolutif. Puis je la voyais marcher sur des œufs comme ça, et moi je savais ce qui se passait parce que. Et ben parce que je le sentais pas, quoi. Donc je me suis dit bon, ok, donc on va surveiller le taux. Bon, d'accord, on va surveiller le taux si tu veux. Ok. Donc on a surveillé ce taux qui a fini par chuter. Et puis là après c'est la grosse catastrophe du système hospitalier français ou localement, je ne sais pas. Mais là après on est toute seule, quoi. Moi j'ai rencontré quand même un gynéco qui m'a annoncé que c'était effectivement pas évolutif, comme s'il m'avait annoncé que j'avais une angine, quoi. Le mec, j'avais envie de lui dire mais je suis toute seule là, je descendais de mon poste de travail. Où j'avais eu ma prise de sang, donc où le taux s'effondrait. Et en fait, je savais ce qui se passait, mais j'avais besoin que quelqu'un me le dise. Quoi. Enfin, si j'avais su, j'aurais préféré que personne me le dise, parce que c'était super violent, parce qu'il fallait rentrer à la maison le soir après, avec Nina qui était là, avec Vincent qui comprenait pas trop ce qui se passait et tout. Même si on était préparé, c'était quand même difficile. Et puis après, moi, j'ai eu besoin que ça s'arrête, quoi. Que ça s'évacue. Et je voyais, on avait un voyage de prévu pour mon triathlète. Et moi, j'angoissais. Je me suis dit, je vais être toute seule avec ma petite. Vincent va faire son triathlon. Et je pense qu'il y a peu de gens qui savent ô combien c'est angoissant pour moi de le suivre. J'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et moi, j'aurai ce bébé qui ne vit plus en moi. Et si je fais une hémorragie là-bas, et si... Et puis à Nevers...
On t'avait laissé le choix, on t'avait proposé
quelque chose. On m'avait rien dit, on laisse faire la nature. Bien sûr. Puis au bout de 10 jours, la nature, elle avait toujours rien fait. Je voyais ce voyage qui s'avançait. Donc on m'a fait prendre des médicaments qui donnent des belles contractions, hein.
Une cytothèque.
Ouais. Et qui ne fait rien. Pas de sang, rien du tout. Et une semaine après, je me suis dit, là j'y vais, quoi. Parce qu'il y a un moment donné, je peux plus, quoi. Et puis psychologiquement, j'étais pas bien. J'étais en arrêt parce que cytothèque, je me suis dit, il faudrait quand même pas que ça arrive au boulot. Hein. Moralement, j'étais pas au top. Et puis je suis tombée sur un interne absolument formidable qui m'a dit non mais on va pas vous laisser comme ça. Il m'a retrouvée au fond, enfin franchement j'étais au fond de la gamelle ce jour-là, et il m'a dit écoutez, demain le gynéco de garde vous passera au bleu, tout ça. Bon. Alors là je me dis waouh, merci Théo, je m'en souviens de son prénom, et il est important pour la suite aussi lui. Et nous voilà partis au bloc. Alors moi j'ai la chance inouïe de faire partie de la maison, donc il y a quand même 2-3 avantages. C'est que j'ai travaillé avec un grand homme, et qui, même si je travaille plus dans son service aujourd'hui, a toujours été d'un soutien inégalable dans nos vies à Vincent et à moi, et qui ce jour-là s'est dit tiens, Fanny passe au bloc, je vais l'accompagner en douane pendant 2h30, où j'avais mal parce qu'on m'avait redonné du cytothèque, où j'avais peur, où j'étais en train de me dire bon, il y a quand même une page qui se tourne. Enfin, c'est assez particulier comme moment. Et voilà, où j'avais quelqu'un à côté qui me parlait de voyage et tout. Donc voilà, c'est ce que je dis moi dans mon malheur. J'ai eu la chance d'être extrêmement bien accompagnée. Et on est allé au bloc, et puis ça s'est bien passé. C'était fini, je suis sortie de l'hôpital, Nina est venue me chercher d'ailleurs. Et voilà, je me sentais mieux, parce que je savais que c'était derrière nous, et que, c'était fait. ce grand bonhomme de médecin m'avait dit que chez les bouddhistes, il disait que c'était simplement une âme qui s'était trompée de corps, et ça m'a vachement aidée pour la suite. Et j'y pense encore souvent, et je me dis, bon, ben voilà. Je voulais 3 enfants, et aujourd'hui je me sens complète, parce que je pense qu'il y a eu cette grossesse au milieu des 2. Et puis on est parti en Suisse, et heureusement que j'étais mieux, un petit peu mieux physiquement, parce que la vache, il faisait 40 degrés. J'étais effectivement toute seule avec ma petite fille, et puis on était en Suisse allemande, et Vincent, il était dans un état pitoyable, parce qu'il faisait trop chaud, voilà. Donc là, je me suis dit, ça s'est pas trop bien, pas trop mal passé, parce que ça aurait été très angoissant pour moi, et la Suisse me fait énormément de bien, et voilà. Après, s'en est suivi une période un petit peu compliquée pour notre couple, parce que la femme vit tout et l'homme, il est à côté. Et même s'il nous accompagne, un bonhomme, ça pleure pas souvent. Puis on est, c'est un peu caché derrière le triathlon. Après, il y a eu les vacances. On s'est caché derrière tout ça en se disant, c'était pas grave. Et après tout, le petit cœur a pas battu et tout. Et c'est vrai que même moi, je me le suis dit. Et puis après, il y a eu un moment où je me suis dit, ouais, quand même, quoi, on l'a envisagé, on s'est dit, tiens, à Noël, on sera peut-être 4. Enfin, voilà, je veux dire, il y a un moment donné, c'est pas rien non plus. Et oui, la prise en charge à Nevers, ouais, je trouve ça catastrophique. Parce qu'après, il y a. Moi, je me cache souvent derrière mon étiquette de professionnel et de personne entourée, quand même. Et je me dis, je me suis mis dans la peau d'une petite nénette. Lambda, on va dire, qui ne connaît rien en médical, qui attendait cette grossesse aussi, parce que bon, malgré tout, nous, on n'avait pas peiné, donc voilà. C'est violent et c'est dangereux laisser repartir les gens. Il n'y a pas de suivi.
Et puis le côté de quelques cellules, ça n'a pas de sens, parce que c'est de toute façon le deuil d'un enfant d'un projet. Ouais. Donc, de beaucoup plus loin, beaucoup plus vaste que ça, quoi.
Oui, et puis. J'ai trouvé ça dramatique et puis en même temps mon côté professionnel me positionne aussi sur les causes de tout ça. Enfin, après, c'est ce que je dis, hein, on est dans tous les services, on est en sous-effectif, on n'est pas obligé d'être inhumain pour autant, mais le système, c'est au-delà des personnages qu'on rencontre, c'est le système aussi de santé qui bug, hein, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans des services où on accouche, c'était une fausse couche précoce, mais un IMG, aujourd'hui à Nevers, on accouche dans le même service que pour une grossesse classique, et je sais pas comment on peut s'en remettre de ça, en fait. Enfin, je veux dire, d'être hospitalisé au milieu des enfants qui crient et tout. Alors que nous, on est vide. Je me suis posé ce genre de questions après. Je me suis dit, essayez peut-être de faire quelque chose, quand même. Même si on nous propose la psychologue et tout, on sait très bien que dans ces moments-là, on est en mode un peu survie. Et puis, c'est pas tout de suite qu'on en a besoin, en général. C'est un petit peu plus tard. Donc, voilà. L'été, donc, nous, on en était là. Voilà. Et puis, notre couple, ça n'a pas été la période la plus facile, parce qu'on n'était plus sur les mêmes, plus sur les mêmes longueurs d'onde. On a peiné à se parler. Moi, en termes médicaux, j'avais pas eu trop de suivi, donc je me suis dit j'ai fait une fausse couche, j'ai eu mon retour de couche, on a envie de faire un deuxième, nous voilà repartis. Le 14 juillet, on a passé une journée avec nos copains. Et signe chez moi avant-coureur de grossesse, c'est que je n'ai pas bu d'alcool. Voilà. Mais ça est passé inaperçu. Et puis j'ai dit à mon chéri, je suis enceinte. Il me dit, oh, c'est pas possible, hein, il y a vraiment un problème, tu es enceinte. C'est un peu trop facile. Et alors écoutez, c'est vraiment trop facile. Donc on revenait d'une semaine de vacances, la première semaine de juillet, nos premières vraies vacances de famille où on n'était pas partis pour supporter un triathlète. au combien stressé quand il est en compétition. Donc voilà, on s'était fait une petite semaine, on est parti complètement à l'arrache, on a décidé ça le jeudi pour partir le dimanche. Et donc on avait fait notre petite semaine de vacances à Royan où on s'était vraiment retrouvés, par contre, tous les deux et tous les trois. Et on était repartis vraiment reboostés. Et voilà, et puis s'en est suivi une semaine ici. Donc ce 14 juillet, le 15, je reprends le boulot. J'appelle mon fameux docteur en lui disant « Hey, doc, il me faudrait une ordonnance pour une prise de sang. » Parce que j'avais fait un test qui était, voilà, qui était positif et voilà, je voulais pas trop m'emballer. Mais en même temps, cette fois, je me sentais vraiment enceinte. Mmh. Et voilà, donc c'est une de mes collègues qui m'a fait la prise de sang. Et c'était positif, mais alors c'était vraiment un tout petit taux. Mmh. Et en fait, tout ce stress que j'avais pas eu pour Nina, parce que j'avais su à 3 mois, là, je me suis dit... Et en même temps, ça allait. Je suis allée voir ma sage-femme, j'ai repris rendez-vous et je lui ai dit, bon, ben voilà. Mmh. Et elle m'a demandé, est-ce que tu veux un suivi rapproché tout? Je lui ai dit non.
Donc t'as pas fait d'écho précoce particulièrement?
J'ai fait, si elle a voulu que j'en fasse une quand même, parce que j'avais eu un retour de couche, mais bon, c'était, ça allait pas trop. Mmh. Et donc, il y a l'écho précoce. La sage-femme arrive, elle me dit, Fanny, par contre, je suis avec quelqu'un qui apprend à faire des échos. Est-ce que ça te dérange si c'est lui qui te fait l'échographie? Donc, revoilà Théo, mon interne.
Ah oui.
Qui m'a vu arriver. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh la vache. Donc, on a versé notre petite larme tous les deux quand il a entendu le petit cœur battre. Mmh. Et là, je me suis dit, oh putain. La boucle est bouclée. Le clin d'œil a été génial et je travaillais et j'avais prévenu certaines de mes collègues, mais pas trop parce que elles avaient toutes été plus ou moins au courant de ma fausse couche. J'avais pas envie qu'on me stresse en fait. Mm-hmm. Je voulais vivre mon petit truc à moi. Et puis je suis quand même enfermée en hémodialyse et malgré tout on galère un peu. C'est physique l'hémodialyse, il y a des gros trucs, on fait beaucoup de manutention. Et un jour, j'étais mais épuisée, vraiment fatiguée. Et je me suis dit, ça va être dur. On était en plein été. Et le matin du 13 août, quand je me suis réveillée pour aller travailler, il y avait du sang sur mon drap. Et là, tout ce qui se passait de bien s'est écroulé parce que je me suis dit, putain... Ça recommence, quoi. Mmh. Deux fois, là, comme ça, coup sur coup, je vais pas m'en remettre, en fait. Là, c'est... What? Pourquoi nous? Non, quoi. Et voilà, j'appelle, je vais pas venir travailler. J'appelle les urgences, elle me dit, écoutez, venez tout de suite, y a pas de souci, on vous accueille, tout ça. Alors, moi, j'étais pas trop bien, parce que, voilà, j'y vais sans Vincent, parce que y a Nina à gérer, tout ça, mais... Et puis elle me dit, non, le cœur bat toujours, c'est un décollement. Ok. Donc elle me dit, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de rester à la maison pendant 3 semaines. Et puis après, de vous reprendre petit à petit le cours de votre vie, tout ça. Ok. Donc je reste à la maison. J'ai une écho de contrôle où le décollement avait pas diminué, mais c'était pas accentué. Et puis là, je me rends compte que rester à la maison avec un petit bout de pas 3 ans, c'est pas forcément évident, même si elle est toujours chez la maman. Et puis, mon médecin traitant me voit pas très bien moralement et me dit, écoute, Fanny, faudrait peut-être que tu reprennes tout ça. Donc je me dis, tiens, effectivement, faut que je me booste, ça va me faire du bien. Faut savoir que moi, mon métier, c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc effectivement, je me suis dit, allez, ça va me faire du bien, on y retourne. Et 2 jours avant de reprendre, en plein après-midi, j'ai saigné, mais là, j'ai vraiment saigné beaucoup. C'était mi-septembre. Et là, je me suis dit, putain, cette fois, là, par contre, là, on a laissé Nina chez un copain en leur disant, de toute façon, cette fois, c'est fini. Enfin, je perdais vraiment beaucoup de sang.
Ouais, ouais.
Je suis tombée sur un vieux gynéco, vraiment de la vieille école, en intérimaire. Un peu sec au début, et puis après plutôt à l'écoute finalement. Et qui m'a dit oui, mais non, mais en fait, c'est toujours un décollement, le cœur bat toujours. Et puis là, on a vu un vrai beau bébé, ouais, en plus à l'échographie, hein, ça faisait presque 3 mois. Donc, Donc non, tout va bien. Par contre, vous n'allez pas reprendre le travail et vous allez continuer la progestérone et l'acide. Parce que c'est vrai qu'on m'avait dit d'arrêter au bout de 15 jours. Et on me dit non, maintenant, jusqu'à octobre, au pire, tant pis, vous en aurez trop. Mais on ne prend pas le risque de faire une carence, tout ça. Ok, bon, très bien. Voilà. L'écho T1 arrive enfin, donc on fait cette super échographie, et puis la sage-femme nous dit « Bah, vous voulez savoir si c'est un garçon aussi ?» Et là, tous les deux avec Vincent, on répond « Ah bah non, en fait, on a juste envie de savoir si ça va, mais clairement, le reste, on s'en fout, on verra plus tard, tout ça. » Et bon, c'est vrai que pour Nina, on avait absolument voulu savoir. Là, sincèrement, déjà, je peinais à y croire, et puis je me suis dit « Enfin, c'est le cadet de mes soucis, mais alors vraiment, en dernier... Et puis après, bon, bah, par contre, Vincent, lui, il aurait bien aimé savoir. Et puis je lui dis, écoute, il n'y en aura pas d'autres après, parce que vraiment, voilà, j'ai un peu passé 3 mois à l'idée, j'en peux plus déjà. Il en reste 6. Je ne ferai pas le 3e. Là, c'est sûr. Donc voilà. Est-ce qu'on peut garder le secret? Puis bon, finalement, voilà, ça c'est super bien passé, on a gardé le secret. Puis voilà, la grossesse a continué. Et elle a été vécue différemment, dans le sens où j'étais cette fois-ci plus que bien accompagnée et extrêmement chanceuse d'avoir autour de moi mes petites graines qui m'ont et moralement épaulée quand ça n'allait pas. Et aujourd'hui, le réseau, j'en suis au cœur, quoi. Donc allaitement, maternage, accouchement, tout ça. Je suis là, je suis au milieu et j'ai tout à portée de main. Et du coup, j'étais mais dans une confiance dans ce qui allait se passer énorme, quoi. J'ai beaucoup profité de Nina. Parce que j'étais en arrêt, qu'au bout d'un moment ça allait mieux. Puis elle est rentrée en école en janvier. Et donc on a énormément profité l'une de l'autre avant qu'elle rentre à l'école. Tout roulait. Et bim, Covid. Et lui, je l'avais pas vu venir. Là, première chose qui a impacté tout ça, c'est les enfants ne sont pas autorisés en visite à l'hôpital. J'ai pleuré pendant 2 jours en me disant je vais être séparée de Nina, elle va pas pouvoir venir voir son petit frère ou sa petite sœur. Tout ce qu'on avait imaginé, elle devait lui offrir son doudou, on a tous rêvé de cette rencontre. Ouais, je veux dire, on fait un deuxième pour que le premier rencontre aussi. Enfin, c'est je me suis dit là et j'ai vraiment eu du mal à passer. À passer outre ça, et puis je me suis dit, de toute façon, on n'a pas le choix, donc voilà. Et puis je me suis dit, il n'y a pas Nina, mais il n'y a pas les autres, et toutes ces autres visites m'avaient un peu pesé pour Nina. Donc je me suis dit, bon, on sera tranquille dans notre bulle, et puis à cette époque-ci, il y avait encore le papa qui pouvait venir, donc ça, s'en est suivi la fermeture de l'école, que j'ai super bien vécu, par contre. Parce que là, je me suis dit, je vais reprofiter de ma Nina. Parce que j'avais peur pour elle, elle l'a pas réclamé, ce petit frère ou cette petite sœur. Notre physionomie de famille fait que voilà quoi, elle est tout le temps avec nous. On l'a tout le temps avec nous, très peu chez les grands-parents. Chez papy, la prend de temps en temps, mais c'est nouveau et c'est pas souvent. Et parce qu'on n'en ressent pas le besoin non plus, donc voilà. Et donc je me suis dit, j'ai essayé de la préparer un peu en me disant, je vais partir, quand je reviendrai, on sera deux, tout ça. Et puis voilà, le terme approche. Et moi qui suis en menace d'accouchement ou en grossesse à risque, je vois ce terme approcher, je me dis, de toute façon, voilà, le terme c'est le 31 mars, j'irai jusqu'au bout, tout ça. Et puis le confinement est là, Vincent est là, de temps en temps, parce qu'il a un boulot un petit peu pénible, où il est d'astreinte tout le temps. Il est à la maison, mais s'il y a un dérangement, il doit partir et tout. Donc c'est un petit peu pénible pour s'organiser, mais c'est pas mal. Puis le lundi 30, mon cher et tendre décide, après 5 ans dans cette maison, de réparer ce portail. Je me dis, bon, répare le portail, très bien. Et laisse échapper l'oustique. Donc l'oustique, on n'en a pas parlé, mais c'est notre premier bébé. On fait partie des familles un peu bizarre avec un bébé chien, mais c'est exactement ça, parce que c'est pire qu'un enfant à gérer. Et il est très fugueur, et donc le stick s'enfuit sous mes yeux et hurle un hurlement qui a fait faire demi-tour au chien qui ne fait jamais demi-tour depuis.
Ah ouais.
Et au moment où j'hurle, je fissure la poche des os. Ne t'étouffe pas, Laetitia.
J'allais boire une plongée.
Voilà, c'est comme ça qu'a commencé, le truc.
C'était un soutien.
Voilà.
Du coup, le stick savait qu'il y avait.
Voilà, il savait que c'était le moment. Et je fissure la poche. Et la professionnelle que je suis se dit putain, pas la fissure. Parce que la fissure veut dire déclenchement, antibiothérapie. Et ne pas forcément accoucher tout de suite, et donc rallonger ma durée de spi toute seule à l'hôpital. Et là, ma nina va être toute seule. Et là, je dis bon. Et en même temps, je sais que quand on fissure, il faut aller à l'hôpital. Donc, il est 18h, on mange tranquillou. J'avais des contractions régulières, douloureuses, mais je savais qu'elles ne travaillaient pas du tout. Enfin, voilà, c'était pas des vraies contractions. Je sentais que ça. Il y avait quelque chose, mais que bon, c'était pas maintenant. Donc voilà, on fait venir tonton Greg. Nina est trop contente parce qu'elle a vu personne depuis 15 jours. Donc,
nice.
Donc on déconfine quelqu'un qui s'occupe de Nina. Et puis Vincent m'amène à la maternité. Mais en fait, moi je pensais qu'il allait m'amener jusque. Voilà. Et en fait, non. Non, il me pose sur le parking avec ma valise parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Et là, je me dis. C'est pas rien, quoi, parce qu'on en entend parler du Covid, tout ça, et en plus, moi, j'avais l'impression de vivre en plein film, un mauvais scénario, hein. Le journal mettait semaine décisive à l'hôpital de Nevers, je voyais mes collègues, mes anciennes collègues qui étaient le service Covid qui en chiaient, et moi, je me suis dit, putain, je vais aller accoucher là-dedans, là. Et en même temps, voilà, je suis prête, ça va aller. Et donc voilà, je rentre, elle m'accueille, et la nana me prend la température et me trouve 38,4. Et là.
Aïe aïe aïe.
Et là, je me suis dit, bon, et ben là, c'est la merde, parce que ils vont m'enlever mon bébé. Tout ça, et je lui dis non mais je me touche partout, je dis, non, autant j'ai mal au bide, enfin voilà, mais j'ai pas de température, quoi. Alors je l'ai fait, j'ai dit vous me la reprenez 15-20 fois par où vous voulez. Et donc en fait le thermomètre marchait pas, mais dans le doute on m'a quand même testé. Mais... Et donc elle me dit bah ouais, vous avez bien fissuré la poche, on vous garde et tout, donc foi, je me dis super, le terme c'est demain, je vais pas aller jusqu'à plus 6 déjà. Cool. Bon, on me garde. Génial. Tranquille. Je suis pas trop mal. Ça va. Par contre, on ne vous déclenche que demain matin. Voilà. Et puis, comme je suis super bien entourée, et, voilà, j'avais fait mon petit préparation, mon programme.
Mon projet naissance.
Mon projet naissance. Où c'était marqué en gros, pas de propesse. En rouge, le reste, je m'en fous, pas de propesse. Essayer de m'accompagner, voilà, je voulais qu'on m'accompagne dans mon projet d'accoucher sans la péridurale, parce que sincèrement, vu celle que j'avais eue la première fois, enfin voilà, je me suis dit... par contre, c'était bien marqué dans mon dossier de me surveiller comme le nez sur le feu, parce que ça allait aller vite, parce que malgré tout, j'avais dilaté très rapidement pour la première et sur un deuxième. Et toutes les professionnelles que j'avais rencontrées avant, j'avais fait un peu d'acupuncture et tout, elles m'avaient dit... Votre col, il est fermé, mais tout le reste est mou. J'avais préparé, j'avais massé. Enfin, voilà, je savais que ça allait venir et que ça allait venir vite. Donc, voilà. Donc, c'était marqué. Enfin, voilà, j'avais... L'équipe était bonne. La petite nénette qui s'occupe de moi le 31 au matin est super mignonne. Et puis voilà, le feeling passe bien. Elle vient me voir le matin. Elle me dit, je pense qu'on va vous poser la perf. Mais je suis pas sûre. Alors, la perf, ça me fait pas marrer non plus, parce que la perf, c'est la péridurale. Alors, je me dis, de toute façon, je suis là, j'avais eu beaucoup de contractions la nuit, et des contractions de fou. Hein. J'avais moins de ventre que pour Nina, il y avait moins d'eau, hein. J'avais pas eu toutes ces complications. Donc on voyait vachement qu'il était d'un côté, de l'autre et tout. Et... Bon, mais je dis, de toute façon, voilà, je suis là, il faut que je couche, on fera du mieux qu'on peut et tout. Et puis elle m'avait vachement rassurée, elle me dit, voilà, je suis là, ça va bien se passer. Et puis le médecin, ouais. Et ben, il dit non, le code il est pas favorable, on va poser un propès. Lol. Bon, donc il vient me le dire, je dis bah de toute façon j'ai pas le choix. Et puis dans un sens, je me dis bon bah propès, c'est un peu plus naturel, ça pourra peut-être bien tourner. Voilà. Elle me le pose, ça se passe bien, elle me dit voilà, il était 7h, 8h le matin, on se revoit plus tard. Donc pendant ce temps, j'avais mes croissants livrés, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir de la visite, toujours par ce formidable soutien hospitalier. Donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment pas rien. Et donc voilà.
Mais du coup, il l'avait pas lu, tu crois, ton projet de naissance ?
Si, il l'avait lu, mon projet de naissance. Et en fait, il m'a dit, si vous voulez pas de péridurale, là, aujourd'hui, vous avez fissuré, il y a un risque infectieux, je suis obligée de vous déclencher. Quoi. Et vous pouvez pas marcher dans l'hôpital. Je ne peux pas sortir de ma chambre.
C'est ça.
On est confinés, quoi. Ok, donc j'ai un ballon, hein, j'en fais sous la douche, j'en fais... J'ai ma coach personnelle, pas en boobs, Annecy, qui me coach et qui me dit, ça va aller. Tu m'as aussi envoyé pas mal de messages. Moi, je pense que tu ne savais pas que j'étais hospitalisée. J'avais pas trop dit parce que j'avais envie de... J'avais un peu peur qu'on me harcèle de messages, encore une fois. Et voilà, et... le 31 passe et à midi, ça allait, j'avais des contractions. Je me pose, je fais une sieste à 15h, plus rien, le néant. Et là, j'ai pété un boulon, mais vraiment. Je me suis mise à pleurer en me disant, je veux voir ma fille. Qu'est-ce que je fous ici? Enfin, je veux dire, vous m'avez fait une perfusion de... Je l'ai fait à la maison, la perf, enfin, je veux rentrer chez moi, quoi. Si ça vient pas, tant pis, je reviendrai quand ça arrivera, et puis... Et donc du coup j'appelle, parce que je suis quand même donc toujours dans ce service de maternité, mais c'est pas les sages-femmes de maternité qui s'occupent de moi, c'est les sages-femmes de salle, donc c'est toujours le bordel quand on m'appelle. On nous oublie un peu pour les plateaux parce qu'on n'a pas accouché, donc les péricultrices, enfin voilà. Et vient une sage-femme, parce que la mienne est occupée, donc la sage-femme de remplacement, et c'est la sage-femme que j'avais eue pour Nina, avec qui je n'avais pas accroché. Et là je dis ah. Et elle me dit tout l'inverse de ce que m'avait dit la petite jeune, en me disant, bah, de toute façon, si demain c'est pas bon, on vous remet un tampon. Et moi, je leur avais dit, si demain c'est pas bon, par contre, on fait la perf. Au-delà de mon accouchement, moi, je pensais qu'à une chose, c'était Nina. Et je veux retrouver, je veux rentrer. Enfin, voilà, tant pis. C'est pas grave. Tant qu'il est en bonne santé, voilà. Mais je veux sortir. Et donc là, je lui dis, non, mais attendez. Non, on m'a pas dit ça et tout. Bah si, c'est comme ça pour tout le monde. Et là, je lui dis, écoutez, j'aimerais bien voir un médecin. Parce que j'ai vu personne. J'ai vu que des sages-femmes, aussi compétentes soient-elles, c'est pas elles qui prennent les décisions, donc je voudrais voir un médecin. Et donc, du coup, voilà. Donc tout ça se fait sans Vincent, hein, qui est au téléphone et qui fait ce qu'il peut. Et donc, je finis par voir le médecin. Et en fait, le médecin, il me dit, mais je vous connais. Effectivement, il avait un peu connu mon... ancien accouchement, il dit vous aurez pas besoin de la perfusion demain, et je vous garantis que demain, si c'est pas fait, vous aurez la perfusion, mais vous allez accoucher cette nuit. Le propès fait maturer le col, et une fois qu'il est maturé, ça va aller vite. Il me dit, avec vous, ça va vraiment aller très vite, donc ne vous inquiétez pas.
C'était rassurant.
Et en fait, il était venu avec la sage-femme que j'aimais bien et tout, et bon, ben voilà, j'avais encore eu la visite de mon ange gardien, guillemets, et donc voilà, je me suis dit, allez, de toute façon, je suis là, j'ai pas le choix, on se recentre, ça va bien se passer, tout ça. Et en fait, le 31 passe et arrive cette date du 1er avril, où je me dis, début de grossesse, la grossesse fausse couche. Et bah du coup, j'attendrai bien le 2, parce que je voulais pas accoucher le 1er avril. J'avais pas digéré, enfin voilà, c'était... Et puis, puis bon, moi j'étais hospitalisée, je me suis dit, de toute façon ça va être le 1er avril. Hein. Voilà. On est là, là, et je pense qu'a priori. Et puis bah, je me suis dit, c'est un beau clin d'œil. C'est... Voilà. Bon, si ça doit se faire comme ça, et puis c'est certainement écrit pour que ça se fasse comme ça. Donc, ok. La nuit arrive, et là, j'écris à Vincent en nuit, bon, cette nuit, ça va le faire. ça va le faire. Et je reste dans ma chambre parce que cette fois, je ne veux pas trop de la péridurale. Donc je me dis, bon, on va rester le plus longtemps possible. Mais la grosse différence entre Nina et cette grossesse et cet accouchement-ci, c'est que je suis toute seule dans ma chambre. Donc je trouve le temps un peu long. Et à une heure et demie, je finis par appeler la nana et lui dire, écoutez, je douille grave. je voudrais savoir où j'en suis. Elle m'examine et elle me dit, bah, 2, 3, toujours postérieur et tout. Je dis, non, mais là. Et là, je me dis, ça va être dur, quoi. Donc là, elle ne me propose pas la péridurale parce qu'elle sait que je ne l'aime pas, mais elle me dit, de toute façon, même si vous changez d'avis, c'est trop tôt. Et donc je suis en salle de pré-travail. Alors que moi, j'avais qu'une envie, c'est d'être en salle d'accouchement, quoi. Et bon, je dis, ok. Je dis, bah, par contre, je vais peut-être dire oui au Nubin, du coup, parce que je suis toute seule et que je suis ambitieuse, mais je vais pas y arriver, quoi. Et elle me dit, bah, pour le Nubin, il faut une demi-heure de monito. Et après, je peux vous le poser. Ok. Bon, bah, je dis, ok, très bien, on va faire monito, elle va aller voir les contractions. Et en fait, il était super à gauche, et elle l'avait pas très bien posé, donc elle les voit pas, les contractions. Moi, je les vois et j'ai mal, et elles sont, c'est pas qu'elles sont rapprochées, c'est qu'elles sont, elles se touchent, quoi. J'avais toujours mon tampon et il tombe à un moment donné, donc je lui dis, bah, remettez-le et comme ça tu regardes. Et elle me dit, non, votre col n'a pas bougé pendant la demi-heure de monito. Donc là, elle me dit, vous allez retourner dans votre chambre. Et je crois que c'est à ce moment-là que tu as envoyé un message en plus où je me dis, bah voilà, je peux pas retourner dans ma chambre, j'ai trop mal, je suis pas bien, enfin, c'est horrible, quoi, je suis seule. Et j'arrive avec le Nubin. Et en fait, il y avait 4 nanas qui étaient en salle d'accouchement, à ce moment-là, 3. Et voilà, elle était un peu dans le jus aussi. Donc, Et elle arrive avec le Nubin. Et puis là, je dis, non, c'est pas... Attendez. Et je pousse quelque chose. C'est la poche des os qui explose. Et du coup, elle se retrouve pleine d'eau avec sa perfusion, son truc de Nubin. Donc du coup, c'était une intramusculaire. Je pense que j'ai ruiné l'aiguille et tout. Elle ne l'a pas faite. Et elle me dit, écoutez, je reviens dans 10 minutes, vous inquiétez pas, machin, ça va aller. Et là, donc là, j'appelle Vincent quand même. Parce que, à savoir que lui, il a le droit d'être là à partir de 8 de dilatation jusqu'à ce qu'on sorte de la salle d'accouchement. Donc on soit heureux dans la chambre. Donc je me dis, bah, quand même, je vais lui dire, on est en pleine nuit, tonton Greg doit revenir. Voilà. Donc je dis, bon, dépêche-toi. Puis j'entends la sage-femme derrière, elle me dit, ouais, il a une petite heure pour venir, tranquille, quoi. Donc là, je l'appelle, il est 2h42. Et puis, j'étais donc dans cette chambre, et puis à un moment donné, je me suis dit, putain, j'ai envie de pousser, quoi. Donc là, je lui renvoie un message, je lui dis, par contre, accélère le mouvement, j'ai envie de pousser, ça fera pas une heure. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça fera pas une heure. Et donc, je sonne, ma fameuse sonnette, personne n'arrive. Et donc, il faut savoir un petit détail, c'est que j'ai une de mes meilleures potes qui est hospitalisée en surveillance intensive de grossesse pour une grossesse gémellaire. Et en fait, je pense qu'ils ont cru que c'était elle qui a couché. Donc, ils sont rentrés dans sa chambre en courant, tout ça. Parce que moi, je sonne, personne ne me répond, et j'ai la porte entrouverte, et je dis, je vais accoucher, ça serait bien que quelqu'un vienne, quoi. Vraiment, là, je sens que c'est pas loin. Et donc, la nana finit par arriver avec un fauteuil roulant. Et là, je lui dis, non, mais ma poule, si tu veux que j'accouche en salle d'accouchement, tu prends le lit et tu l'emmènes en salle d'accouchement. Bon. J'étais à 4 pattes sur mon lit, enfin, je vais pousser, quoi. C'est mort, le fauteuil, ça va pas aller, quoi. Et puis arrive ma sage-femme, donc j'ai changé, hein, elle est super cool, elle s'appelle Claire, je crois. Géniale, très douce et tout. Et arrivent deux autres sages-femmes, vraiment, ils prennent le lit et tout, et je dis, mais est-ce que je peux pousser, quoi. Et il y avait un mec qui me dit, ouais, allez-y, genre, ouais, de toute façon. Et puis, Raphaël est arrivé dans le couloir, quoi. Bam. En 3 poussées. Et du coup, sans Vincent. Et du coup, j'ai eu mon accouchement physio. Tranquille. J'ai accueilli mon enfant parce qu'il poussait les lits, il se prenait les murs. Donc, voilà. Et c'était génial parce que j'étais en transe. Enfin, j'ai vraiment vécu un truc de ouf. J'étais morte de rire parce qu'ils se regardaient tous. Il y en a un qui a dit à un moment donné, putain les gars, on n'a pas mis les masques, non mais on n'a pas mis les gants non plus, quoi. Enfin, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Donc voilà, on pose mon bébé. Et puis là, ils sont, y a trois autres nanas qui sont en train d'accoucher. On a foutu un bordel pas possible dans la matière. Donc on me laisse planer tranquille. J'appelle Vincent qui me dit bah, j'arrive. Je dis bon, on va prendre ton temps maintenant, c'est fait quoi. Et puis il arrive trois minutes après. Donc bon, ouais. il a pas vu, mais il était là. Et on me laisse planer. Et puis à un moment donné, je dis bah. C'est un garçon ou c'est une fille? Parce qu'on me demande le prénom. Et en fait, bah, ils étaient plusieurs et bah, ils ne savaient pas. Il y en a qui ne savaient pas que je savais pas le sexe. Voilà. Bon, c'est un garçon. Alors là, j'ai peut-être demandé 15 fois, vous êtes sûr? Parce que bon, bah, dans ma famille, il n'y a que des filles. Et j'étais persuadée que... Enfin, on avait choisi Raphaël pour un garçon et pas pour une fille. On avait choisi le prénom. Et en fait, je savais que ce bébé s'appellerait Raphaël. Mais je pensais que c'était une fille. Et j'avais demandé à Vincent si on pouvait l'appeler Raphaël, si c'était, c'était une fille aussi. Bon, c'est le cheminé, mais il n'était pas chaud quand même. Et donc, bon, bah, c'est un garçon qui s'appellera Raphaël. J'étais trop contente. Et voilà. Et puis, on me laisse gérer parce que bah, voilà, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et la nana, là, elle me dit bah, quand vous sentez que le placenta arrive, vous m'appelez, je vous aiderai à l'expulser. Là, je me dis waouh! Ouais. Putain, elle me fait confiance, enfin, parce que tu m'as pas écoutée non plus, là. J'ai failli accoucher toute seule dans ma chambre, donc même si j'en suis capable, je suis toute seule, quoi. Enfin, voilà. Je suis hospitalisée, quand même, et j'ai accouché dans le couloir. Je trouve qu'en niveau de timing, vous êtes pas dingue, quoi. Et ouais, tu m'as pas écoutée, bon, c'est pas grave, mais voilà, c'est dommage. Et donc, voilà, Vincent arrive, on passe nos 2-3 heures, parce qu'ils ont laissé durer quand même, ils laissent durer ce temps avec le papa, c'est important quand même. Et j'ai une photo de Vincent qui a son bébé, et qui est génial, parce qu'il est vachement... qui se dit, mais c'est quoi ce truc de fou, quoi. Et je suis arrivée, moi, quand il est arrivé, bon non, bah, j'avais pas expulsé le placenta, mais je suis ressortie, je suis allée dans ma chambre en marchant, quoi. Ouais. Dire, j'ai... Bah, pas de point, rien quoi, enfin, une lettre à la poste quoi, hein, vraiment. Et aussi cette sensation, bah, j'ai accouché du coup, quoi. C'est fini quoi. Il y a 9 mois pour 5 minutes en fait. Quoi. Et super ambivalent, j'étais super fière parce que voilà. Et en même temps, super fière, et quand je vois, je suis beaucoup de comptes sur Instagram qui. Ouais, qui disent au moment, ouais, vous pouvez le faire et tout. Et qui se mettent une grosse pression. Et moi, en fait, il y a eu un moment où je l'ai voulu, la péridurale. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que je pensais à vous en me disant, recentre-toi, t'en es capable et tout. Mais juste, bah ouais, j'en suis capable, mais putain, je suis toute seule, quoi. Et vraiment, cette solitude m'a vraiment pesée à ce moment-là, en gestion de douleur, en... Et par contre, aujourd'hui, bon, je pense pas qu'il y ait d'autres grossesses après, j'en éprouve pas l'envie, mais le milieu hospitalier, c'est fini, parce que je sais que j'en suis capable, et que je trouve que l'accompagnement en milieu hospitalier, finalement, c'est pas franchement un accompagnement, c'est juste 4 murs, mais il y a personne à nos côtés, et c'est ce qui m'a manqué, finalement, donc les deux fois, quelqu'un qui m'écoute, donc voilà. Et donc, bon, bah, on retourne dans cette chambre avec mon Raphaël, et puis on passe 48 heures, parce que j'ai négocié, hein, quand j'ai eu mon propesse. Je leur ai dit, si tout se passe bien, je me taille, montée de lait, pas montée de lait, rien à foutre. Je sortirai, de toute façon, j'aurais dit, je sortirai contre du médical. J'en ai strictement rien à souhaiter, à part si vraiment il y a un souci avec...
Ouais.
Voilà. Je suis pas... Mais donc, 48 heures après... Le vendredi, on prépare la sortie. Et donc, la sortie se fait jusqu'au bout. Hein. Donc, il faut savoir que j'ai toujours pas vu ma copine qui est hospitalisée juste à côté de moi. C'est assez difficile, parce qu'on s'est beaucoup soutenu pendant cette grossesse. Et qui a été difficile pour elle, difficile pour moi. Qu'avant de tomber enceinte toutes les deux, on s'est fait un petit week-end, genre le dernier week-end avant un moment, surtout parce qu'elle savait pas qu'elle attendait des jumeaux à ce moment-là, mais je pense effectivement que c'était notre dernier week-end entre filles avant une bonne dizaine d'années. Et donc ouais, ça m'a pesé, même si j'ai eu la chance d'avoir mes croissants tous les matins et d'avoir un soutien, c'est même pas sans faille, c'est que voilà, je sais aujourd'hui que peu importe ce qui m'arrive à l'hôpital de Nevers, j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui regarde de plus ou moins loin et qui surveille, et ça, c'est génial. Et donc voilà, on prépare la sortie, et donc la sortie, c'est une sage-femme qui raccompagne jusqu'à dehors. Le papa ne rentre pas, quoi. Et ça, je trouve ça dur, en fait. Mmh. Et j'ai une chance inouïe, c'est que la dernière sage-femme qu'on connaisse est là, ce jour-là, et dit, bah, quand même, c'est moi qui vais te raccompagner. Mmh. Donc Vincent, il est venu me chercher avec Nina. Il est midi et demi, 1h. Il y a plein de monde qui est dehors, parce que c'est la post-clope de l'hôpital. Et Raphaël, il est en écharpe. Bon, j'ai pas mes... On entraîne mes valises. Et Nina, elle se jette dans mes bras. Et je pense qu'elle a fait pleurer. Bah, déjà, notre copine, c'est sûr. Moi... Et elle pleure de joie, de peine, de... Je sais pas trop ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, mais c'est... Et là, et en fait, moi, quand je sors de cet hôpital, ben voilà, j'ai pas vu l'air depuis 4 jours. C'est peu 4 jours, j'étais restée hospitalisée presque une semaine pour Nina, entre le déclenchement et tout. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu la guerre. Ah. Il s'est passé un truc de fou. Enfin, c'est juste dingue d'avoir vécu un truc vraiment bizarre et historique, quand même. Et cette pauvre Nina, elle est là, et je me dis, mais putain, ça va être dur pour elle. Elle a vécu un truc, toujours aujourd'hui, où c'est extrêmement difficile pour elle de me laisser, de « est-ce que tu vas rentrer ce soir ?» et « pourquoi j'étais pas là ?» Et ça, par contre, c'est un truc que j'aurais toujours du mal... C'était très difficile pour Vincent aussi, hein. Je le revois dire à notre pote sage-femme, ben moi j'ai l'impression d'être papa aujourd'hui, quoi. C'est lourd en sens, je trouve, parce que c'était il y a 2 jours, quand même. Et que tu te dis, putain, on est passé à côté de ça, quoi. Enfin, c'est pas de notre faute, c'est, enfin, je veux dire, c'est de la faute à personne. Hein. Enfin, bref. Mais voilà, aujourd'hui ça va être difficile, il y a quelque chose à créer derrière qui va être plus difficile que prévu, quoi. Et voilà, on rentre à la maison en ayant l'impression d'avoir vécu un truc complètement surréaliste, quoi. Vraiment, moi je suis dans la surréalité et je me dis, mais ça s'est vraiment passé, quoi. Je veux dire, on a vécu un début de grossesse super merdique, quand même. On a mis longtemps à se projeter. J'ai fait ma valise, la chambre tard. J'avais peur. Enfin voilà, j'étais transie de peur. Je me suis dit, ce bébé, on le verra jamais, quoi. Enfin. Et là, il est là et bon, il est que pour nous, puisqu'on peut voir personne.
Oui, de fait, avec le confinement.
C'est super pénible, en fait, parce qu'on est tous, ok, on profite, hein, les 10 premiers jours ça va, puis après on se dit, putain, on peut pas sortir se promener, on peut pas avoir une vie normale, quoi. Donc après ça pèse, parce que c'est pareil, hein, moi j'avais dit assez rapidement que je voulais prendre mon congé, un petit congé parental, pour reprendre en septembre, ce qui nous évitait la galère de l'été avec Nina, à l'école, tout ça. Ce qui nous permettait d'avoir une place en structure plus en crèche familiale. Enfin, voilà. J'avais mis toutes les chances de mon côté pour que ça roule. Pas un moment j'avais pensé que j'aurais ma fille et mon nouveau-né à m'occuper pendant tout ce temps. Alors c'est vrai que c'était super cool, hein, puisque les matins j'avais pas à me lever tout ça, pour l'amener à l'école, mais c'est difficile parce que Nina, elle a rien demandé. On lui enlève l'école, les copains, la famille, les potes. On lui rajoute quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui pleure toutes les journées. Avec un allaitement qui peine à se mettre en place, même si j'ai du lait. Heureusement que j'ai ce réseau-là, parce qu'il y a un frein, il y a plein de choses qui font que ouais, c'est un peu la galère. Et puis Raphaël, il a quand même eu un accouchement assez particulier pour un petit bout de chou. Quoi. Enfin, ça a été rapide pour lui aussi, donc... Donc ça peine un peu à se mettre en place et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis super contente parce que j'ai eu un accouchement. Enfin, je veux dire, je peux même pas dire que j'ai eu mal, quoi. Enfin, où j'ai vraiment senti j'ai mal, mais c'est moi qui ai la solution pour plus avoir mal et le corps est super bien fait. Enfin voilà, ok, c'était cool, c'est merci. Mais à côté de ça, bah voilà, le contexte sanitaire a fait que c'était pesant et puis voilà, c'était pas prévu, il n'y a rien qui était prévu comme ça. Donc on s'est adapté et puis voilà, après Nina, maintenant c'est cool. Et puis voilà, après c'était mieux. Et aujourd'hui, je me rends compte que accoucher seule, c'est pas possible, ni plus ni moins. Qu'accoucher hors hôpital, moi qui n'avais. Si je l'ai envisagé, franchement, quand ils ont commencé à confiner et tout, je me suis dit pourquoi j'ai pas réfléchi à ça avant. Mais en même temps, je me le sentais pas du tout. Enfin, puis, de toute façon, c'était hors de question le dernier mois. Voilà. Et puis, mais par contre, maintenant, je me dis qu'aujourd'hui, c'est possible et qu'en fait, je sais pas tant. Bah, après, c'est. Être médicalisée, je comprends que ça ait une importance pour certains. Et en fait, enfin, voilà, il faut que tout. Mais pour moi, c'est plus indispensable, en fait. Donc, je suis contente, même, parce que. Voilà, j'aurais vécu aujourd'hui, voilà, j'ai vécu les accouchements que j'ai voulu, et finalement, quand même. Donc c'est plutôt cool.
Ça a changé ta vision aussi.
Ouais, ça a changé pas mal de choses. Ouais. C'est vrai que, voilà, on appellera cette grossesse, cet accouchement Covid. Et c'est vrai qu'on a toujours un peu de colère parce que ça s'est pas passé partout pareil, en fait. Quoi. C'est ça que je trouve un peu difficile. À Moulins, c'est à 60 km. Et puis, ils ont accouché tranquille avec les papas, tout ça.
Ouais. Il faut savoir que le Conseil national de l'Ordre des gynécologues de France avait dû faire passer un truc pour que, justement, les papas soient accédés. Parce qu'il y a des endroits où ils les refusaient complètement.
Oui, oui.
Donc, voilà, ça, c'était vraiment propre à chaque établissement.
Et en même temps, nous, on n'a pas eu de bol parce qu'on était vraiment dans le pic épidémique. Là, on était dans le chaos. Une fois de plus, ma blouse m'a servi à relativiser, à me dire bon. Mais j'ai mis longtemps à me dire, t'as nous donc quand même volé quelque chose, quoi. Enfin, et aujourd'hui, ouais, quand l'ARS m'a demandé un témoignage, un ressenti sur ce qui s'était passé, bah, je crois que je leur ai répondu un truc pas très agréable en leur disant, vous voulez vraiment que je vous dise ce qui s'est passé, enfin.
Mais je pense qu'en même temps, c'est important de témoigner.
Ouais,
aussi,
du coup, je leur ai écrit un petit truc en disant oui, vous avez imposé des choses qui, pour moi, c'était un deuxième, je savais où j'allais, j'étais en terre connue. Enfin, je veux dire, moi, l'hôpital, c'est ma deuxième maison. Hein. Et aujourd'hui, je me dis, je me remets à la place de cette jeune maman lambda et je me dis. T'es toute seule dans cette chambre et je trouve que autant les sages-femmes ont eu un accompagnement. Enfin, moi j'avais été pas médicalisée. Elle me posait 1 g de paracétamol par jour, histoire d'eux. Mais... Et elle prenait le temps. Elle me disait voilà, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Donc, voilà. Et par contre, on me déposait mon plateau sinon, quoi. Les soins de l'enfant, bon, bah, je sais comment. D'ailleurs. Qu'on se le dise, hein, le premier bain ne s'est pas passé à l'hôpital, hein, je suis désolée, je vous ai menti. on propose même pas d'aide, enfin, hein, je veux dire, et ça, par contre, j'espère que c'était propre à moi, parce que c'était un deuxième, et que je suis infirmière, et que j'ai pas été spécialement en demande, mais je suis pas sûre, et je trouve ça gênant, en fait, parce que ces mamans-là, à ce moment-là, elles avaient besoin d'être soutenues, de pas être seules dans leur chambre, vraiment.
Et puis d'avoir le choix, quoi.
D'avoir le choix, d'être accompagnée de... Et ça me pose vraiment souci parce qu'on n'est pas là pour... On n'est pas malade, quoi. On est là pour vivre les plus beaux instants de nos vies. Et OK, il y a une pandémie, mais je veux dire, la pandémie, on était à Nevers, quoi.
Et puis ça doit pas gâcher ce moment-là, voilà. Qui restera magique aussi.
On était là, et à Nevers, on a la chance d'avoir une maternité qui est un petit peu excentrée du reste de l'hôpital. Enfin, et en fait, on doit pas gâcher cette bulle, cette chose. Et, voilà. et, Donc voilà, après, je m'en suis sortie, c'est cool, mais j'espère que tout le monde s'en est sorti. Et voilà, parce qu'après, il y a plein de choses. Je veux dire, on rentre à la maison, il y a tout le postpartum à gérer. Et quand ça n'a pas été cool à la maternité, je ne sais pas si c'est facile à gérer. Là. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'avoir 48 heures, moi, je veux dire... Voilà, on a dormi et puis on est reparti, quoi. Enfin,
Façon de parler.
Voilà, on était couchés, quoi. Mais ouais, donc... mais y a tout le reste à gérer derrière et j'espère que...
Mais tu soulèves quelque chose de vraiment important, je pense. La présence et l'accompagnement, tu vois. C'est important, je pense, de soutenir à fond les femmes enceintes et les jeunes mamans, quoi. Parce que, mine de rien, comme tu dis, on n'est pas toutes... On n'a pas toute la même préparation, puis finalement, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui ont besoin d'être vraiment, vraiment soutenus.
Ouais. Et ça, c'est... Enfin, moi, je trouve que, c'est quelque chose qui m'a interpellée, qui m'avait déjà un peu interpellée pour Nina, mais là, j'ai trouvé que le fossé se creusait vraiment et on passe à côté de l'essentiel. Donc, c'est un peu dommage. On vient juste là pour accoucher. Ouais. Et puis, pour donner la vie, quoi. Donc, stop. Ouais, quand c'est bien d'être accompagnée, même si c'est pas grand chose, moi, juste 5 minutes de discuter, de voir quelqu'un dans cette chambre de 9 mètres carrés. La spécificité de notre histoire avec Raphaël et de notre histoire de parents aussi, et de l'arrivée de ces deux bouts de chou qui est aujourd'hui vécu. Autant par beaucoup de fatigue, parce que voilà, c'est normal, mais autant par énormément d'amour c'est trop chouette, quoi. C'est génial. Quand on les voit aujourd'hui tous les deux, on se dit, c'est pas grave. Enfin, toutes les galères qu'il y a eu, il y aurait pu y en avoir puissance 40.
Ça vaut quand même le coup, tellement c'est magnifique.
Ça vaut, ça aurait été dommage que ça se passe autrement, finalement, quoi. C'est quand même super chouette ce petit Raphaël.
Super, mais merci beaucoup pour ton témoignage.
Ouais.
T'as un petit message, une dernière petite chose que tu voudrais dire?
Eh ben oui, moi je suis extrêmement reconnaissante aujourd'hui du village, le fameux village que je me suis trouvée, que je me suis créée et qui me soutient et qui m'a soutenue et qui continue de me soutenir. Et en fait, on a tendance à croire aujourd'hui que le village, il est la maternité, dans la famille. Il n'est pas forcément là où on le pense. Il n'est pas forcément à côté de nous. La preuve, le confinement en est la preuve. Mais il est là et s'accompagner aujourd'hui quand on s'apprête à devenir parent, c'est pour moi la chose la plus importante et c'est ce que je retiendrai de nos histoires, c'est que même si on a une vie familiale, une histoire particulière, aujourd'hui on a la chance d'avoir autour de nous des piliers qui font qu'on est là et on s'en sort bien. et que la vie, elle est quand même. Elle finit par reprendre le dessus et que ça, c'est le plus important en fait. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles, ça aide. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Vous pouvez participer financièrement via le compte Tipeee Enfanter et Devenir. C'est une belle façon de me dire merci, mais aussi de soutenir le projet, de le voir grandir et se pérenniser. Et j'ai même prévu pour vous de jolies contreparties. Je vous laisse aller les découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.